trouverez par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Drôle de texte que celui de l'Ecclésiaste. Dans un article du magazine Le Point, on pouvait trouver cette question. Si le luxe apporte la joie, si l'argent permet de satisfaire les plaisirs, reste la lancinante question, à quoi cela sert-il? À quoi ça sert? Et derrière cette question, on peut y trouver la question, celle qui anime l'humanité depuis la nuit des temps. Quel est le sens de la vie? À quoi cela sert-il? Et c'est bien à cette question que le livre de l'Ecclésiaste se confronte. Et c'est bien à cette question que l'Ecclésiaste apporte une réponse. Et la manière dont le livre aborde la question est très surprenante. Et d'ailleurs, son message est souvent mal compris. Les non-croyants y voient un éclair d'athéisme au cœur de la Bible. C'était le titre d'un article de Philosophy Magazine, « Un éclair d'athéisme au cœur de la Bible ». Et d'un autre côté, on doit le reconnaître, les croyants ont souvent du mal à s'approprier le sens de ce texte aussi, de l'Ecclésiaste. On y trouve des contradictions, un scepticisme engagé à l'égard de Dieu. On y trouve encore un sentiment de désespoir qui est pesant. Et certains se sont même demandé qu'est-ce que ce livre pouvait bien faire dans nos Bibles. Certains ont même voulu l'enlever. Alors les questions que nous allons nous poser ce matin, c'est d'abord comment attraper ce livre, comment s'approprier le message de ce livre, puis quelle réponse il apporte au sens du travail et des plaisirs en relation avec le texte que l'on vient de lire. Et après, on va essayer de répondre à cette question, la large question, quelle réponse apporte-t-il au sens de la vie? Ça ressemble un petit peu à vos sujets de dissertation de philosophie pour l'épreuve du bac. Rassurez-vous, c'est moi qui vais travailler ce matin. Alors, je vous propose de commencer par une rapide présentation du livre et puis par vous proposer une clé de lecture pour comprendre justement ce texte. L'Ecclésiaste nous présente les interrogations, les questions d'un homme qui s'interroge sur le mystère de la vie et sur l'absurdité de l'existence. Son discours est lucide, il est très pragmatique. Et il est construit sur un travail d'observation et d'expérimentation. Un peu à la manière d'un chercheur, l'Ecclésiaste observe ce qu'il voit, il prend du recul, il analyse et il propose une thèse. Une thèse, et suite à ses observations, voilà la thèse qu'il propose. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Et souvent, on a tendance à en rester là. Mais, il y a un mais en même temps, l'Ecclésiaste souligne que la vérité ne dépend pas seulement, ne dépend pas d'abord de ce que notre intelligence comprend, de ce que nos yeux voient, de ce que nos sens perçoivent, mais que nous avons besoin d'un regard extérieur. Nous avons besoin du regard de Dieu, de sa sagesse, pour pouvoir connaître quelle est notre place dans ce monde. Et ce qui est formidable, c'est que l'Ecclésiaste ne nie pas les paradoxes de notre condition humaine. Il laisse d'un côté cohabiter notre foi en Dieu et d'un autre côté, l'absurdité de l'existence. Et personnellement, j'aime beaucoup ce livre. Je le trouve excellent. On a beau avoir la foi, lorsque nous regardons ce qui se passe sous le soleil, qu'est-ce qu'on y trouve ? Et l'actualité récente en témoignera. On y trouve la maladie, la guerre, l'injustice et en fin de compte, la mort. Et tout cela est absurde. Et ça suscite en nous des réactions, des questions. C'est pas branché. Ah, c'est David qui... C'est bon ? D'accord. Donc tout ça suscite en nous des réactions et des questions. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible ne nie pas cet aspect de notre condition humaine. Dieu vient nous rencontrer dans notre humanité. Alors, les paradoxes de la vie, les tensions de la vie font naître en nous des doutes et des questions. Formidable. Dieu nous parle au travers du livre de l'Ecclésiaste. Il a une réponse à nous apporter. Et au travers de ce livre, il nous pousse, il nous conduit à réfléchir, à agir et à vivre nos vies, nos existences, aussi absurdes qu'elles puissent nous paraître. En lui, en dehors de qui, rien n'a de sens, nous dit l'Ecclésiaste. Et ce ton fataliste du livre de l'Ecclésiaste, il ne plaide pas en faveur d'un athéisme ou de l'absence de Dieu, d'un éloignement de Dieu. Non, bien au contraire, il nous conduit à désespérer de ce qui n'a pas de sens pour nous mener vers celui qui a du sens. C'est une pédagogie du désespoir qui nous mène, en fin de compte, à Dieu. Et les versets du livre, les derniers versets du livre, en attestent et sont, je crois, la clé d'interprétation de l'ensemble du livre. Ces derniers versets, ils nous disent, pour conclure ces paroles, et tout bien considéré, crains Dieu et observe ses commandements. Tout est là pour l'homme. Dieu mettra en jugement toutes les actions, tout ce qui est caché, bien ou mauvais. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce refrain lancinant qui est si spécifique à ce livre de l'Ecclésiaste. En fait, le mot hébreu qui a été traduit par vanité est « evel ». Il apparaît 37 fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Ça nous donne vraiment le ton du livre. Et l'idée de la traduction exacte de ce mot, ça serait plutôt « vapeur »,« souffle ». Et ça renvoie à quelque chose d'absurde, à un non-sens, à quelque chose de trompeur même. Et c'est le constat de l'Ecclésiaste. Ce que l'homme vit sous le soleil, qu'il s'agisse de la recherche de la sagesse, de la recherche du plaisir ou du travail, tout n'est que du vent. Revenons à notre texte. J'ai dit en mon cœur, allons et je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Voici, c'est encore là une vanité. L'auteur ici nous présente ses conclusions sur la question des plaisirs comme but de la vie. Le mot cœur renvoie à cette idée d'un engagement de toute la personne. Vous vous rappelez, c'est un chercheur. Il y a peut-être cette possibilité que le sens de la vie se trouve dans la recherche des plaisirs. L'Ecclésiaste va se donner tout entier dans cette recherche. Il faut s'assurer que le sens soit peut-être là. Et la liste des plaisirs cités est d'ailleurs impressionnante. Du vin, des propriétés, des divertissements, des richesses, des femmes, la reconnaissance... Il ne s'est privé de rien. Tout cela aurait dû faire de lui l'homme le plus heureux du monde. Et pourtant, le constat de l'Ecclésiaste est que ses plaisirs n'apportent pas de satisfaction durable. Qu'ils soient terre à terre ou raffinés, ils n'apportent pas de réponse satisfaisante au sens de l'existence de l'homme. Ensuite, l'Ecclésiaste évalue le travail, son œuvre. Et il en déduit encore que malgré les plaisirs que cela lui a procurés, cela ne reste que du vent. Le travail nous permet d'avoir de l'impact. Par le travail, nous obtenons la reconnaissance au travers de nos actions, de nos compétences. Nous cherchons à participer au monde au travers de notre travail et d'une certaine manière à le transformer. Et oui, c'est grisant de voir l'impact de son travail, de voir ce qu'on est capable de faire. Et pourtant, même si nous parvenions à faire partie de ces rares personnes qui laissent une œuvre qui traverse le temps. Pourtant, cela ne resterait que du vent. Voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. Alors c'est vrai, l'homme peut pendant un temps banaliser son insatisfaction. Et il peut se fabriquer du sens. Et oui, ça a du sens. Parfois, ces recherches paraissent palpables et durables et solides. Mais inévitablement, un jour, l'homme sera contraint de constater l'absurdité de ce sens. Face à la mort, la fumée se dissipe et il ne reste que du vide. L'homme vit sous le soleil. Ça veut dire qu'il évolue avec un horizon limité. Son horizon est borné par la mort en fin de route. Tous nous mourrons. Et c'est ce caractère éphémère de la vie, c'est la mort qui fait dire à l'Ecclésiaste qu'il n'y a aucun avantage à ce que l'on fait sous le soleil. Ce qu'il met en évidence, c'est que rien n'a de sens au regard de la mort. Alors l'Ecclésiaste dresse un portrait de l'existence humaine lucide et sans concession. Il nous bouscule, c'est désagréable, il nous place face à la réalité de notre condition. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le bilan proposé par l'Ecclésiaste est pertinent et tellement d'actualité. Notre société contemporaine est qualifiée par certains de civilisation des plaisirs et des loisirs. D'autres parlent de société du travail. Elle est les deux à la fois. Et fonder son existence sur les plaisirs et le travail nous rend extrêmement vulnérables face aux réalités des épreuves de la vie. Une conception de la vie construite ainsi est vaine, elle n'est pas tenable et elle s'écroule d'elle-même tôt ou tard. Il est presque inévitable que la souffrance vienne perturber notre joie et démolir le sens sur lequel nous avons bâti nos existences. Imaginons une personne dont le but principal de la vie serait de profiter d'activités de plein air, faire du vélo, de la course à pied, du canoë. C'est l'aventure, c'est ça la vie, il n'y a que ça de vrai, non ? Et voilà, la vie est dure parfois, suite à un accident de voiture, se retrouverait sur un fauteuil roulant jusqu'à la fin de ses jours. Ça arrive, hein, c'est des scénarios qui sont probables pour cette personne. Tout s'écroule, tout s'arrête. Et concernant le travail, je pense à ces personnes que j'ai trop souvent rencontrées dans le monde de l'entreprise. Des personnes qui s'investissent corps et âme pour leur travail, pour leur carrière, qui sacrifient pour elles leur vie personnelle, leur vie sentimentale, leur vie familiale, et qui du jour au lendemain, suite à un dérapage ou un changement de direction, deviennent les hommes à abattre dans l'entreprise. Tout s'écroule, pour un temps du moins, tout s'écroule pour elles aussi. Et même si rien ne vient perturber nos recherches de sens, dans le plaisir et dans le travail, le résultat reste le même. C'est du vent. Du vent, presque un soupir de lassitude. Le sens n'est pas là encore. Rien ne donne pleinement satisfaction à l'homme au cours de son existence sous le soleil. Voilà le problème que soulève l'Ecclésiaste. L'homme place son espoir dans des choses qu'il espère pouvoir le combler, mais aucune d'entre elles ne tient ses promesses. Est-ce que vous la ressentez, cette pédagogie du désespoir ? Alors c'est lourd, c'est peut-être moi, pardon, mais le texte, il nous bouscule, il est dérangeant. L'Ecclésiaste nous conduit à désespérer de ce qui n'a pas de sens et nous amène à Dieu. Ouf, on y arrive. Donc, après avoir méprisé le monde et tout ce qu'il pouvait nous apporter, l'Ecclésiaste arrive à cette conclusion inattendue. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Cette crainte de Dieu est incontestablement le point culminant du livre. Elle doit être mise en perspective avec cette expression qu'on a déjà citée, « sous le soleil », qui apparaît 29 fois dans le livre. Cette expression, on l'a vu, elle renvoie à la dimension éphémère de la vie. Et bien que Jésus-Christ, au moment où le livre de l'Ecclésiaste a été écrit il y a 3000 ans, donc soit environ 1000 ans avant Jésus-Christ, Jésus-Christ ne soit pas encore venu à ce moment-là de l'histoire, l'Ecclésiaste entrevoit déjà à ce moment-là la possibilité d'une vie après la mort. Il parle de la pensée de l'éternité, et il est convaincu qu'un jour, au-delà du soleil, Dieu rendra pleine justice. Et les derniers versets du livre, le dernier verset du livre est renversant. Alors que nous entendons depuis 12 longs chapitres interminables que rien n'a de sens, l'Ecclésiaste nous déclare finalement que tout compte, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ouf, il y a un sens. Et ce sens de la vie, nous dit l'Ecclésiaste, il se trouve en Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Voilà la conclusion de l'Ecclésiaste, ce que doit faire tout homme, le but de la vie, son sens, c'est la crainte de Dieu. Et j'ai hésité, mais j'avais du mal à ne pas mettre ce passage, ce verset, en parallèle avec un verset de Deutéronome 10 qui nous dit « Concernant la crainte de Dieu, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Et Jésus, plus tard, déclarait que la loi de Dieu, les commandements de Dieu, consistent à aimer Dieu et son prochain. Ces commandements, ils nous rappellent qu'au-dessus du soleil se trouve un Dieu bienveillant qui cherche le bonheur de ses enfants. Et ce bonheur et ce sens véritable, Dieu, notre Créateur, nous dit qu'il se trouve en lui. Alors, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Je vais répéter cette phrase, elle n'est pas de moi, c'est une formule du petit catéchisme de Westminster qui dit « Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. » Cela implique que Dieu ne nous laisse pas errer sans sens. Et ça sous-entend aussi, ça implique que nous devrions chercher à le connaître et à l'aimer plutôt que de chercher nos plaisirs personnels. Ils sont vains, nous dit l'Ecclésiaste, et Dieu est le sens de nos existences. Alors, est-ce que cela signifie qu'en dehors de Dieu, les plaisirs ne nous sont pas permis? Ou qu'ils n'existent pas en dehors de Dieu? Non, bien sûr que non. Même au contraire. Cela signifie que ce sens de la vie, une vie vécue pour Dieu, impacte nos vies dans leur totalité, nos désirs, notre travail, tout le reste. Je m'en réfère à saint Augustin qui dit qu'il y a une belle formule qui nous dit « La solution n'est pas de moins aimer les choses de la vie, le plaisir, le travail, mais d'aimer Dieu davantage. » Et lorsque nous avons cette certitude de l'amour de Dieu, et que nous l'aimons en retour, cela nous transforme et nos désirs s'organisent autour de la priorité qui revient à Dieu. Dieu ordonne nos désirs, Dieu ordonne notre vie. Mais plus encore, l'Ecclésiaste nous dit que malgré la vanité de la vie, les plaisirs nous sont donnés par Dieu. Si un homme mange et boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu, Ecclésiaste 3. Ça fait partie des difficultés du texte, des subtilités du texte. L'Ecclésiaste ne cesse d'un côté de rappeler que tout est vanité, que le plaisir, le travail, tout est vanité. Et d'un autre côté, il nous rappelle qu'il s'agit de dons de Dieu. Et il nous encourage à les croquer à pleines dents. En fait, Dieu nous donne le contexte de cette jouissance. Elle ne doit pas être recherchée pour elle-même, mais elle doit être considérée comme donnée par Dieu. J'aime déguster de bons rhums en fumant un bon cigare. Ah, je vois qu'il y a des fans aussi. Devant un beau paysage avec une belle musique. Et si vous rajoutez à cela un copain avec qui partager tout ça, je suis aux anges. Mais si je me liquide 3 bouteilles de rhum, il y a des chances que je sorte de ce contexte de jouissance voulue par Dieu. Dieu nous invite, Dieu nous appelle à vivre notre vie devant lui et pour lui. Il y a cette expression latine, je vais vous la citer, ce n'est pas pour me la raconter avec mes deux pauvres mots de latin, c'est une expression qui dit « vivre coram Deo », vivre face à Dieu. Cette expression, je pense qu'elle a du sens dans l'Église parce qu'elle est inscrite dans nos traditions théologiques, Mais c'est aussi un moyen de se rappeler de cette idée, vivre devant Dieu, vivre coram Deo. Et s'il y a un point que vous devez retenir de cette prédication, c'est ça, vivre devant Dieu, vivre coram Deo. Alors lorsque nous dégustons notre vin, lorsque nous sommes transportés par de beaux paysages, par de belles musiques, lorsque nous prenons notre pied dans nos différentes activités, mais encore dans toute notre manière de vivre notre vie, que ce soit au travail, en famille, n'importe où, faisons-le à la gloire de Dieu. En étant reconnaissant, voilà ce qui n'est pas du vent, voilà ce qui a du sens. Vivre toute sa vie en présence de Dieu, sous son autorité, à la gloire de Dieu, vivre coram Deo. Mais encore, en reliant ce sens de l'existence au commandement de Dieu, l'Ecclésiaste nous rappelle que Dieu s'est choisi un peuple, qu'il l'a sauvé du désespoir, et qu'il lui a confié une mission particulière, celle de le représenter parmi les nations. Il nous rappelle que nous faisons partie de ce peuple, que nous pouvons en faire partie, et qu'en cela, notre vie peut devenir une mission exaltante. Une vie vécue face à Dieu, devant Dieu et pour Dieu. Voilà le sens. Dieu ne nous a pas laissés démunis, perdus et errants dans la fumée de l'absurdité de nos existences. Il n'a cessé de venir lui-même à notre rencontre et de nous rappeler que ce n'est qu'auprès de lui que nous serons pleinement comblés. Qu'il est le sens de l'existence. Il est venu en Jésus-Christ, il s'est fait pleinement homme, il a fait l'expérience de la vanité de la vie pour nous en délivrer. C'est en Jésus-Christ que nous avons tout pleinement. Il nous invite à croquer la vie qu'il nous accorde et à la vivre pleinement face à lui, devant lui, pour lui. Il est aussi celui qui nous tient la main, qui nous conduit lorsque nous marchons dans la fumée, dans le paradoxe de l'existence. Il est notre ferme espérance face à la mort. Il est celui qui accomplit la loi et qui nous rend juste devant Dieu. Alors j'arrive à la fin, cette dernière ligne de cette prédication. Alors malgré les questions qui traversent nos existences, que nous soyons croyants ou non, seul Jésus-Christ est en mesure de nous apporter la réponse satisfaisante et consistante au sens de la vie. Alors regardons à lui et vivons nos vies toutes entières devant Dieu et pour Dieu. Amen.